Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de
tout ici, Jamodima,
qui renverse des chaînes, des forteresses.
Qui passe du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
Et Dieu ne veut pas que tu restes au même stade, surtout si tu es dans un stade de manque. Dieu ne veut pas que tu sois non plus dans le juste assez. Dieu veut que tu sois richement béni et que tu aies tout en abondance. Alors, il faut quand même savoir que pour un pasteur, je ne connais aucun pasteur qui prêche sur ce sujet-là ou qui mentionne le mot argent sans immédiatement entendre des esprits religieux nous dire à l'oreille « tais-toi ». Et il nous parle, je vous assure ça, c'est un des sujets sur lequel on entend les esprits religieux nous parler et qui nous disent, tais-toi, tu vas passer pour quelqu'un tu vas plutôt donner l'impression que tu es quelqu'un qui veut l'argent des gens. Ce qu'on entend dans l'esprit, c'est, oh, les gens vont croire que tu veux leur argent. Oh, vous savez, un pasteur vit depuis... Avant que vous entriez dans l'église, votre pasteur vivait. Vous avez réalisé ça? D'accord, ok. Mais je vais vous dire, de partout c'est pareil. De partout c'est pareil. Il y a une pression qui est terrible parce que le diable ne veut pas que vous entendiez ce que Dieu veut concernant l'aspect matériel de votre vie. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que votre prospérité... Est-ce que votre prospérité n'est pas en train de toucher votre famille? Les gens, ils se disent, mais comment fais-tu? Comment fais-tu pour bâtir cette maison? Comment fais-tu pour avoir cette voiture? Comment fais-tu pour vivre là où tu es? Comment fais-tu pour t'habiller comme cela? Et les gens ont des questions. Ils ne vont pas forcément vous les poser, bien que. Moi, j'en ai qui m'en posent. Hein. Quelqu'un, un jour, m'a dit la question, mais tu fais comment? Ben, j'ai eu le bon réflexe de dire, tu sais, je sers un Dieu qui me donne les moyens de faire ce que je fais. Donc, ça a été à la gloire à Dieu. Alors, une chose que je veux vous encourager, c'est ne croyez pas que vous avez à vivre dans le besoin et n'acceptez pas d'être dans le besoin. Il faut que vous déterminiez une bonne fois pour toutes, je n'accepte pas, quand je dis le besoin, je ferais mieux de dire, je n'accepte pas le manque dans ma vie. Je ne l'accepte pas. Comme vous avez quelquefois ce réflexe, je n'accepte pas la maladie dans ma vie. Je n'accepte pas le manque de pardon. Je n'accepte pas un film porno à la maison. On zappe, évidemment. Il y a des réflexes que l'on a. Et avec le manque matériel, il faut que l'on ait cette même détermination. Je n'accepte pas. Une phrase que je vise à ne plus jamais dire, ça c'est ce que je veux que vous vous disiez, c'est « je ne peux pas me le permettre ». On a trop vécu avec « ah non, je ne peux pas me permettre ». Tu vois cette paire de chaussures là, regarde, t'as vu, elle te plaît? Ouais, elle me plaît, mais je ne peux pas me le permettre. Ça sert à quoi qu'elle te plaise? Pour qui elle a été créée? Pour ceux qui ont ce goût-là. Ces chaussures ont été créées pour que ça plaise. Mais quand toi, en tant que roi, en tant que fils de Dieu, tu passes devant cette vitrine où tu vois ces jantes de voiture, ou je sais pas moi ce qui peut vous plaire, messieurs, ou cette canne à pêche, ou cet ordinateur, ou je sais pas moi, ou cet outil électrique, ou ce ballon de football. Voilà, mon imagination, elle s'arrête là. Et que vous voyez cette chose-là dans le magasin, et que vous dites, je ne peux pas me le permettre. Vous croyez que ça reflète Dieu, cela? Non. Dieu a envie que tu arrives au stade où tu peux dire, je vois cela, j'aime cela, Tu le prends, tu passes à la caisse et tu dis, je vous dois combien? Et on n'en parle plus. Alors, regardez avec moi maintenant, dans Deutéronome, chapitre 18. Il est possible d'arriver au stade où on n'a plus à dire, je ne peux pas me le permettre. Mais ça n'est pas à coup d'heures de travail supplémentaires. C'est bien de travailler et c'est Dieu fournit la semence au semeur par le travail. Donc c'est bien de travailler. C'est même bien de faire des heures supplémentaires si jamais on a besoin. Mais faire des heures supplémentaires au point où on n'a plus besoin d'exercer notre foi en Dieu, ça ne va pas. Parce qu'on finit par faire notre travail, notre source, au lieu de faire d'accord notre part et d'assumer nos responsabilités, mais en toujours en ne perdant pas de vue que Dieu est notre source. Vous avez trouvé Deutéronome, chapitre 8, verset 18. Alors, il faut savoir que le peuple hébreu avait été en Égypte. Quand il était en Égypte, il vivait dans l'esclavage, et en esclavage, il vivait dans le pas assez. Il n'y avait jamais assez. Il n'y avait pas assez de nourriture. Il n'y avait pas assez de vêtements. Il n'y avait pas assez de force. Il n'y avait pas assez de futur. Il n'y avait pas assez d'espace dans la maison. Il n'y avait pas assez. Pas assez d'argent. Pas assez de salaire. Il n'y avait pas assez. Dieu les a délivrés. Ensuite, il les a amenés. Il les a fait traverser le désert. Le désert, à peu près, on estime qu'il fallait 10, 11 jours pour le traverser. Et ils n'ont pas traversé ce désert en 10, 11 jours. Franchement, ça n'aurait pas été dramatique de passer 10, 11 jours. Aujourd'hui, on fait du tourisme dans le Sahara. Ça n'aurait pas été dramatique, mais ils sont restés dans le désert, pas parce qu'ils ont perdu leur carte d'orientation, ils n'ont pas perdu la boussole, ils sont restés dans le désert à cause de leurs murmures. Est-ce que tu sais que tes murmures peuvent te laisser au milieu des scorpions et de ce que tu détestes le plus? C'est leur bouche, c'est leur parole qui les ont gardés dans le désert. C'est pas parce qu'ils ont perdu leur chemin, c'est ce qui est sorti de leur bouche qui les a gardés dans le désert. Et dans le désert, d'accord, Dieu a pourvu, mais ils étaient dans le juste assez. Ils avaient juste assez de manne, ils avaient juste assez d'eau, ils avaient juste assez de nuées pour ne pas brûler, ils avaient juste assez de feu pour se réchauffer la nuit. Alors d'accord, ils n'étaient pas passés du pas assez à l'excès, ils étaient passés d'abord par le juste assez. La prospérité selon Dieu est progressive. Tu vas prospérer dans la mesure où tu prospères en Dieu. Ça, c'est la manière dont Dieu voit la prospérité. Dans le monde, le diable veut que tu prospères en brûlant les étapes, de manière à ce que quand tu as gagné au loto, tu as cette grande somme d'argent, tu ne sers plus ton Dieu. Dieu va t'amener à prospérer de manière à ce que tu continues à servir Dieu. Avoir de l'argent ne doit pas être un but. Mais se servir de l'argent comme d'un outil, ça doit être un but. Rappelle-toi d'une chose, c'est que l'argent est un très bon serviteur, mais c'est un mauvais maître. Dieu veut que tu te serves de l'argent, pas que l'argent se serve de toi. Est-ce que tu vois la différence? Alors, c'est vrai que gagner de l'argent ne doit pas être un but. Maintenant, dire « Seigneur, je vais te servir et pour faire tout ce que j'ai envie de faire, Seigneur, il me faut des moyens. Donne-moi de l'argent pour te servir. » Et si tu as cette attitude, je te garantis que Dieu va ouvrir les vannes du ciel, il va s'assurer qu'il y a des rendez-vous divins, il va te donner la faveur, il va mettre des gens sur ta route qui vont t'aider avec des promotions, des bonnes affaires, etc. Si dans ton cœur tu as les bons motifs. Est-ce que vous voyez la différence? Alors, bien sûr que Dieu veut que nous prospérions, mais rappelle-toi, est-ce que tu as déjà vu peut-être un charpentier se mettre à adorer son marteau? Tu diras, pourquoi? Parce que pour lui, son marteau, c'est quelque chose qui lui permet d'atteindre un but. peut-être un charpentier avec un marteau, vous avez déjà vu? Et tout le monde l'a cru. Avec un burin ou un maçon avec un marteau. Mais on n'a jamais vu cela. On n'a jamais vu un garagiste commencer à adorer sa clé ou son tournevis. Pourtant, alors que ils vont se servir de ces outils uniquement pour réparer. Mon but, c'est de réparer cette voiture. Mon but, c'est de construire ce mur. Mon but, c'est de faire cette armoire en bois. C'est un outil qui va leur permettre d'atteindre un but. Mais pourtant, on voit des gens qui adorent un outil qu'est l'argent. Et c'est terrible. Parce que dès qu'ils commencent à adorer l'argent, adorer, ça veut dire quoi? Adorer, ça veut dire donner la première place. Adorer, ça veut dire que celui à qui tu donnes la première place a le droit de te dire ce que tu fais et ce que tu ne fais pas. Adorer, ça veut dire avoir complètement tes pensées vers là. Le mot adorer, c'est plus que de lever les mains. Et il y a beaucoup de gens qui adorent et qui ne chantent pas et qui ne lèvent pas les mains. Mais ils adorent quelque chose. Leurs pensées sont continuellement vers cette chose-là. Ça peut être le football, ça peut être une émission à la télé, ça peut être, peu importe, il y a différents sujets d'adoration. Et le football leur dit quand ils peuvent voir les amis, quand ils peuvent pas le voir. Le football leur dit ce qu'ils peuvent dépenser pour y aller, pour aller dans le bus avec les supporters. Le football leur dicte leur vie. J'ai rien contre le football, hein, je vais vous dire tout de suite. Football à sa place, c'est très bien. Mais Dieu lui réclame la première place. Et il y a une chose qui est certaine, c'est que Dieu, en tant que créateur, Dieu, être infini, ne partagera sa place avec personne. Il la partagera pas. C'est-à-dire, Dieu dit, eh bien, le trône m'appartient, le trône de ton cœur m'appartient, si tu m'as donné ta vie, laisse-moi régner dans ta vie. Mais si on veut mettre quelqu'un à la place, Dieu ne se battra pas. Dieu ne se rabaissera pas à ce niveau-là. Dieu dira, c'est ça que tu veux adorer dans ta vie? Tu veux donner la première place à cette chose-là? Vas-y. Mais le jour où tu auras un problème, tu vas te tourner vers cette même chose-là et tu n'auras aucune solution. Vous voyez comment ça marche? Alors, Dieu, je ne sais pas pourquoi je dis tout ça. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui écoute la cassette qui en aura besoin. Mais bon. Vous avez trouvé ici, donc, le peuple d'Israël, est entré dans la terre promise, et la terre promise, ce n'est pas le ciel. La terre, pourquoi? Parce qu'il y avait des géants qui étaient à vaincre, et au ciel, tu n'auras rien à vaincre, d'accord? La terre promise, c'était l'héritage, c'était ce que Dieu voulait leur donner. Et ici, ils entrent dans la terre promise, et le Seigneur veut leur donner tout en abondance. Le nombre de fois où vous pouvez voir le verbe multiplier, 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 multiplier. Quand tu es passé du pas assez au juste assez et que tu restes fidèle avec Dieu, Dieu va t'amener dans le plus qu'assez. Et c'est exactement là que Dieu veut que tu vives. Bon, ma question est, où est l'Église aujourd'hui? Où sont les chrétiens? Beaucoup de chrétiens vivent dans le pas assez. Il y a une bonne majorité qui vit dans le juste assez. J'arrive, mais alors juste. Et en général, on tire sur les chrétiens qui vivent dans le plus qu'assez. Moi, je crois que le diable, il a bien fait son travail. Il a fait croire à l'Église que Dieu nous voulait dans la pauvreté et tout le monde a accepté, sans vérifier les textes, parce qu'à un moment, les textes étaient interdits. Dieu s'est arrangé pour que la vérité soit libérée et gloire à Dieu de ce qu'il y a des milliers de chrétiens sur la terre qui ont découvert leur héritage, qui ont découvert ce à quoi ils ont droit et qui sont en train de dire, voilà mon but dans ma vie, c'est de vivre au niveau que Dieu veut pour moi. Waouh! Alors, verset 18 Verset 17, « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la vigueur de ma main m'ont acquis ces richesses. Tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour acquérir ces richesses, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. » Ici, le Seigneur dit quelque chose d'intéressant. Il dit, « Maintenant que tu es arrivé, là où je te veux, il dit, tu vas voir que tu vas t'enrichir. Maintenant que tu as accepté, tu sais que Dieu ne peut pas te forcer à t'enrichir. Il faut que toi, tu aies décidé de recevoir ces richesses. Dieu ne peut pas guérir un malade qui veut continuer à toucher sa pension. Mais Dieu ne peut pas faire prospérer quelqu'un qui veut rester pauvre. Ou quelqu'un qui veut rester dans le juste assez. Beaucoup de gens, moi j'ai toutes les difficultés à suivre mon texte, alors bon tant pis, hein. Mais beaucoup de, peut-être qu'ils l'auront demain, sinon plus tard. Il est beau en plus, je vous dis, bon. Mais beaucoup de gens ne veulent pas prospérer parce que leur père leur a montré par la manière dont ils vivaient, qu'ils ne pouvaient pas prospérer, leur père ou leur mère, peu importe. Mais dans leur éducation, on leur a dit, mon fils, on fait partie de la famille des ouvriers, tu vas te marier avec une ouvrière, il n'y a aucun problème. Ma sœur et moi, nous venons d'une famille d'ouvriers. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent jamais, ils ne veulent pas. Vous pouvez les exposer à autre chose, ils ne veulent pas plus qu'assez. Ils veulent continuer à calculer, à rester dans le juste assez, parce qu'on les a conditionnés pour dire « c'est là que tu appartiens ». À tel point que si vous prenez ces gens-là, qui ont été habitués à se vêtir avec les vêtements que le frère aîné avait, ou que la sœur aînée avait, ben c'est une réalité, hein. C'est comme ça qu'on vit, qu'on n'a pas assez. On retaille les vêtements, on les recoud, et hop là! Et le cartable, eh ben, il passe au troisième. Troisième génération qui a le cartable. La trousse, eh ben, ça se voit, elle est déjà toute tachée à la rentrée. Pourquoi? Parce que ça fait le troisième qui refile la trousse, et le quatrième, eh ben, il faut qu'il la recouse lui-même. Mais vous savez, quand vous êtes élevé dans cette mentalité-là, il faut faire des efforts. D'abord, il faut entendre la parole de Dieu qui dit « Dieu a un autre futur pour toi ». Ensuite, il faut recevoir le message et décider « Je vais vivre autrement ». Et il y a des choses qui sont belles, qui sont magnifiques à expérimenter et c'est pour moi. Ça veut dire qu'il va falloir faire des efforts. Parce que je vais vous dire, quand vous avez été élevé dans un contexte où tout ce qui est beau, c'est pour les autres. Moi, je me souviens, la première fois où je suis rentrée dans un hôtel, c'était même pas un 4 ou un 5 étoiles, hein, c'était un hôtel, c'était style 2 étoiles. Mais j'avais envie de partir en marche arrière, parce que c'était encore trop beau pour moi. Je ne peux pas vous dire, d'ailleurs c'est simple, les magasins qui étaient beaux, même pas pour rire, j'y rentrais. Parce que c'était devenu comme une allergie, les gènes, c'est mon corps, toutes les cellules en moi repoussaient cela. En moi, au fond de moi, j'étais née pour autre chose. Mais tout m'avait conditionné pour croire l'inverse. Tout m'avait dit non, c'est là que tu appartiens. Au point que mon corps rejetait un autre contexte. Et vous savez ce qui se passe dans ces cas-là? C'est que quand les gens sont habitués à vivre à ce niveau-là, vous les mettez en contact avec des gens. Tu sais, il y a une chose, c'est que le succès, la réussite, grandir dans les choses matérielles. Tu sais pourquoi c'est important? Je vais te dire pourquoi c'est important. Parce que ce que tu vois autour de toi a un impact qui est énorme. 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 Si tout ce que tu vois autour de toi, c'est des pièces de bois qui sont, allez, clouées ensemble, au lieu d'avoir un beau plâtre, à la place de ce trou là qu'il y a dans le mur. Si tout ce que tu vois, ce sont des vêtements qui sont déjà usés, si tout ce que tu vois, ce sont des chaussures, ben, t'as beau passer la couche de cirage, ça y est, le blanc, le cuir, il est là, hein. Et le cirage, il suffit plus à avoir la vraie couleur du cuir. Si tout ce que tu vois, eh bien, te dit, c'est là que tu appartiens, je te garantis que le jour où tu vois quelque chose qui contredit ce qu'on t'a dit de toi, tout en toi voudra fuir. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu commences à changer ce que tu vois. Et je suis sérieuse. Une des manières, c'est commencer à changer votre pensée, votre façon de penser en disant, tu sais quoi? Toutes ces choses, c'est pour moi. Tu vois du baccarat et t'en as marre aussi de marcher, de manger dans ton arcopale, hein? Et tu dis, pourquoi j'aurais pas Villeroy et Bosch? Pourquoi est-ce que je n'aurais pas, je sais plus quelles sont les marques anglaises là, hein, qui sont magnifiques. Mais si tu veux changer des choses en toi, moi je, après tout tu dis, mais qu'est-ce que ça fait les marques? En soi, c'est de la poussière. Seulement, il y a une chose que ça fait, c'est que ces marques disent, oui c'est pour toi ou non c'est pas pour toi. Ces marques change. On s'en moque des marques. Ça n'a, en soi, ça n'a aucune valeur. Tu casses une assiette à 1000 euros, tu sais, elle ira dans la même poubelle que Valarcopal. Ça ne fait aucune différence. Même si la poubelle dans laquelle elle va, c'est un inox qui est plus beau que la poubelle en plastique, ça ira dans les déchets. Ça n'a pas à voir avec la valeur que ça a, ça a à voir avec la valeur que ça te donne. Je veux te dire, les gens qui expérimentent le succès, ils ne marchent pas de la même manière. Ils ne saluent pas les gens d'une manière aussi... Ils saluent les gens d'une manière qui est généreuse. Quelqu'un qui a été habitué à ce que tout soit rafistolé, quelqu'un qui a été habitué à joindre les deux bouts, quelqu'un qui a été habitué à s'habiller uniquement que là où on sait que... Ah bon, hein, dans juste, vous avez remarqué qu'ils sont plus timides que les autres? Vous avez remarqué qu'ils sont impressionnés? Montre-leur un beau costume, montrez-leur une belle voiture et ils sont... Montrez à quelqu'un qui connaît la prospérité matérielle, bon, d'accord, c'est un bout de tissu. Ils sont moins impressionnés. Sauf si toutes ces choses leur donnent une identité. C'est pour cela que dans Jean, il est dit que, eh bien aimé, je souhaite que tu prospères, comme prospère l'état de ton âme. Parce que quand ton âme prospère, tu découvres ton identité. Tu sais que c'est Jésus qui te donne une identité. Et ça n'est pas le chiffre qui est sur ton compte en banque. Ça n'est pas la marque du costume que tu parles, que tu portes. Ça n'est pas la voiture. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui cherche son identité dans les choses matérielles. Parce que tu veux que je te dise, les choses matérielles changent. Tous les 6 mois, il y a une nouvelle mode. Tout le temps, tu rencontreras quelqu'un qui a un zéro de plus sur ton salaire. Et si tu cherches à avoir de l'assurance en fonction de la voiture que tu conduis, si tu cherches à être apprécié à cause du quartier dans lequel tu habites, je te dis tout de suite, tu seras toujours mal à l'aise parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui aura plus que toi. Si ton identité, si ton assurance, si ton succès est en Christ, non seulement, peu importe, mais vraiment, si tu as ou si tu n'as pas, mais quand tu as, tu n'es pas impressionné par ces choses. Quand Dieu te rend prospère, tu veux que je te dise, tu continueras à servir Dieu. Il y a combien de chrétiens qui ont commencé à prospérer? Gloire à Dieu de ce qu'ils ont entendu. Ils sont sortis de la difficulté. Ils vivent mieux. Leurs familles, leurs amis se posent des questions. Surtout en France, parce qu'en France, quand quelqu'un prospère, normalement, on dit, il y a quelque chose de louche. Quelque chose de louche là-dedans. C'est terrible, cette mentalité. Je ne sais pas si elle vient de la Révolution. Je serais curieuse de savoir d'où ça vient, mais c'est, ça tue le succès en France. Je crois que c'est Monsieur de Villepin qui a dit qu'il fallait que les Français retrouvent le goût au succès. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est dans un pays qui tue le succès. Et il faut se battre en tant que chrétien pour dire non, mon Dieu me promet un autre style de vie, j'en ai besoin pour servir mon Dieu, j'ai besoin pour accomplir les rêves qu'il m'a donnés, et je vais me battre, comme tout à l'heure Sonia disait, je vais me battre pour sortir de là où je suis, pour passer à un autre niveau. Et il y a des paliers. Il y a des, vous allez voir que il y a des vous dites, tiens, je suis à ce niveau-là, et puis le Seigneur vous bénit, et tout d'un coup, vous avez la révélation, et vous dites, tu sais quoi? Je peux passer à un autre niveau matériel. Je crois que c'est pour moi. Et il va falloir que vous vous battiez dans votre foi. Il va falloir que vous croyiez que Dieu vous donne des rendez-vous divins. Il va falloir que vous exerciez votre foi en Dieu. Mais tu sais, ça veut dire aussi, et Dieu va te faire passer tout d'un coup à un autre palier. Et ça va être comme ça. Tu n'es pas obligé de t'arrêter où tu es. Le problème, c'est qu'on a des difficultés à croire ces choses, parce que très souvent, on dit, oui, mais si tu sais quel diplôme j'ai. Mais tu sais quel métier j'ai. Alors, quand on pense tout ça, on dit, je ne peux pas prospérer. Tu sais de quelle famille je viens. Donc, je ne peux pas prospérer. Tu sais que mon employeur, il a déjà dit, plus d'augmentation, je ne peux pas prospérer. Tant que tu as tes yeux sur tes limites à toi, tu ne pourras pas prospérer. Si tu as tes yeux sur les limites que donne la parole de Dieu, dans ces cas-là, tu n'as plus de limites. Amen. Tu n'as plus de limites. Et tu ne vas pas transpirer non plus pour prospérer. Il y a la prospérité selon les êtres humains et il y a la prospérité selon Dieu. Mais si tu choisis la prospérité selon Dieu, ah c'est vrai, elle n'est pas toujours flagrante. Et c'est vrai que quelquefois, ça coûte de servir Dieu. Mais je peux te le garantir et je suis une preuve vivante que le jour viendra où Dieu honorera ta foi. Toute sa famille a vu la foi de Sonia. Qu'il soit d'accord ou qu'il soit pas avec ce qu'elle croit. Peu importe s'ils sont d'accord, peu importe s'ils ont écouté Sonia, tout le monde a vu sa foi. Sa foi, vous savez que Sonia n'aurait pas pu se marier avec Diego si elle n'avait pas accepté que Dieu élargisse sa façon de penser. Dieu n'aurait pas pu l'emmener dans le désir du cœur de se marier dans un château si elle n'avait pas accepté de croire qu'elle était digne de prospérer. Il a fallu qu'elle change sa façon de penser pour que Dieu puisse dire, maintenant, je vais te donner quelque chose qui va te bénir. Tu sais que les bénédictions de Dieu sont plus grandes que ce que tu peux, toi, calculer, encaisser, emmagasiner, imaginer. Mais qui met des limites à toutes ces choses-là? Pas Dieu. Dieu est illimité. La Bible nous dit que Dieu dit à moi tout le bétail, à moi tout l'or et à moi tout l'argent. On n'impressionne pas Dieu par nos rêves. On n'impressionne pas Dieu en disant Seigneur, je veux tel salaire parce que je veux participer à l'avancement de ton royaume. Je veux participer, je veux donner une bonne éducation à mes enfants. Je veux laisser un bon héritage à mes petits-enfants. On n'impressionne pas Dieu. Mais quand quelqu'un dit, tu sais, Seigneur, moi, je vais retirer toutes les barrières. Je vais retirer les barrières que la France met sur moi. Je vais retirer les barrières que mon banquier met sur moi. Je vais retirer les barrières que mes parents ont mis sur moi. Je vais retirer les barrières que mes diplômes ont mis sur moi. Et Seigneur, je vais aller avec ton plan. Dieu ne peut pas faire autre chose. Dieu ne peut pas faire autre chose. Si ton Dieu n'est pas plus grand que ton salaire, je te garantis, dans 10 ans d'ici, je peux te dire exactement combien tu vas toucher et dans quel quartier tu vas habiter. Je peux te dire exactement où tu vas aller te vêtir et je peux te dire exactement que spirituellement, tu n'auras pas bougé. Je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé en moi quand j'ai vu le quartier où Dieu voulait que j'habite. Je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé en moi quand j'ai vu mon appartement se meubler avec des choses qui étaient, mais même plus que ce que j'avais demandé à Dieu. Vous savez ce que ça m'a fait? On dit, oh, mais tu n'as pas peur que ton cœur se détourne de Dieu en ayant de belles choses? Avec des tableaux de collection. Tu n'as pas peur que ton cœur se détourne de Dieu? Non. Si tu as accepté ce que Dieu a pour toi et que tu marches tous les jours, le jour où ces choses arrivent, mais ta foi, elle va être de béton. Moi, avec tout ce que Dieu a fait dans ma vie, mais je ne peux pas vous dire, ma foi, elle est partie en flèche. Au lieu que ces choses-là soient accaparent mon cœur, vous savez, quand je suis obligée d'exercer ma foi pour quelque chose, par exemple pour la conférence. La conférence qui arrive là, je peux vous dire, à tous les niveaux, on est en train de passer à un autre palier. Mais on n'est pas en train de passer à un autre palier, ça va affecter toute l'église, je peux vous le dire. C'est pour ça que je vous dis, venez voir ce que le Seigneur va faire. Mais je peux vous dire qu'avec cette conférence, on est obligé, je suis obligé d'exercer la foi. Mais il y a une chose qui m'aide à exercer ma foi, c'est ce que je vois à la maison. Parce que tout ce que je vois à la maison me dit ce que mon Dieu a fait. Vous comprenez combien la foi est encore plus forte quand on est entouré de choses qui sont belles, parce que la beauté vient de Dieu, le désordre et la pauvreté viennent du diable. Je n'ai jamais vu la pauvreté et la beauté habiter sous le même toit. On peut penser ensemble, on est à l'église, non? On peut réfléchir? Si vous voulez savoir qui est votre Dieu, il va falloir que vous acceptiez les belles choses. Et que ça vous plaise ou pas, le prix va avec dans ce monde. Tu dis, est-ce que tu commences à comprendre ce que ça veut dire de voir? Quand tu vois ces belles choses, tu vois Dieu derrière. Quand je suis à la maison et que je vois des choses qui sont belles pour moi, peut-être que ça ne te plaît pas, mais moi, ça me plaît. Tu sais qui je vois? La fidélité de mon Dieu, la bonté de mon Dieu, le Dieu qui tient ses promesses. Et toutes ces choses fortifient ma foi. Tu sais, rappelle-toi que quand Dieu a voulu donner la terre au peuple hébreu, il a amené Abraham sur une haute montagne, au mont Moré. Et là, il a dit à Abraham, il a dit, regarde, ce que tu vois affecte ta foi. Je vais le redire. Ce que tu vois affecte ta foi. Dieu veut que tu vives à un autre niveau. Mais il va falloir que tu acceptes de voir autre chose. Dieu ne pourra jamais faire sortir quelqu'un qui vit dans une tente de camping. Il ne pourra jamais l'amener dans un studio si cette personne n'accepte pas que ses yeux voient ce studio. Tant que physiquement cette personne rejette, ça veut dire que cette personne, dans sa tête, n'a pas renouvelé ses pensées. Dieu a amené Abraham sur cette haute montagne et il a dit, regarde, aussi loin que tu peux. Il a dit, tout ce que tu vois, je te le donne. Mais certaines choses sont trop belles pour toi pour que tu les vois. Tu ne pourras pas les regarder. tu t'arrives, t'as jamais réussi à t'arrêter devant ces vitrines-là. Parce que t'as jamais cru que c'était pour toi. Résultat, tu ne peux pas le voir. Tu ne peux pas le voir, tu ne peux pas l'avoir. Alors, il ne s'agit pas, là je sens que tout le monde est en train de réfléchir là. Il y a un silence digne du ciel. Il ne s'agit pas du regard de convoitise. Ça n'a rien à voir avec ça. Dieu ne te fera jamais prospérer pour satisfaire ta convoitise. Il ne le fera jamais. Mais pour te faire prospérer, Dieu a besoin que tu vois, accepte de voir autre chose, pour que quand tu vois ces choses, il puisse dire, je te le donne. Et que tu puisses dire, Seigneur, ce que je vois, je crois. Ce que je vois, je crois que tu me le donnes. Vous voyez comment ça marche? Alors, il y a des gens qui disent, oh, peu importe ce que tu as chez toi, peu importe ce que tu vois. Non, ce que tu vois affecte ta foi. Ce que tu vois change ce que tu crois de Dieu. Mais la première des choses, c'est d'entendre sa volonté. La première des choses, c'est savoir que tu as le choix. Quand tu entends cette phrase 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite, ça c'est le Saint-Esprit qui te le dit, quand tu entends bien-aimé, je souhaite que tu prospères, comme prospère l'état de ton âme, je souhaite que tu sois en bonne santé, que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Tu sais pourquoi il y a des gens qui pourront jamais guérir? Seigneur vient de me le dire. Parce qu'ils passent leur temps avec des malades. Et en ne voyant que la maladie autour d'eux, ils n'arrivent plus à avoir la santé. Waouh ! Si tu es malade, passe du temps avec les gens en bonne santé. Si tu as des problèmes financiers, passe du temps avec ceux qui vont bien financièrement. Le problème, c'est quand quelqu'un a été tellement écrasé par son éducation, très souvent, il jalouse ceux qui ont de l'argent. Très souvent, quand quelqu'un a été oppressé matériellement dans son contexte, hein, cette personne va accuser ceux qui sont vont bien matériellement. Et ce qui se passe, c'est que ça les garde à ce niveau-là. Au lieu de dire, moi, tu sais, je vis dans le pas assez en ce moment, et je sais une chose, c'est qu'avec mon Dieu, je peux passer au juste assez. Allez hop, je vais mettre ma foi en action pour passer à un autre niveau. Résultat, je vais m'arranger pour fréquenter des gens qui vivent dans le juste assez. Et je vais entendre ces gens parler, je vais regarder ces gens vivre. Et ensuite, quand on est là, on va dire, maintenant, Seigneur, moi, je crois que je vais vivre dans le plus qu'assez. Et là, il y a tout qui va dire en toi, ça n'est pas pour toi. Tout qui va dire, jamais tu ne pourras porter ces vêtements, jamais tu ne pourras faire ceci, jamais tu ne pourras aller là, jamais tu ne pourras conduire ceci, jamais tu ne pourras prendre l'avion pour aller en vacances, non, 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 non. Et là, c'est le moment de dire non. Je vais refuser ces façons de penser. Et quand le diable viendra en disant, tu vois, regarde un peu, eux, ils ont ça, et toi, tu n'as pas ça. Tu sais ce que tu diras? Tu dis, d'accord, peut-être que je ne l'ai pas encore. Mais en attendant, eux, ils savent quelque chose, parce qu'ils vivent dedans. Ils connaissent des bonnes adresses, parce que c'est là qu'ils font leurs courses. Les légumes à leur table, ils ont meilleure mine. Alors, je vais regarder comment ils vivent et je vais apprendre à vivre à leur côté. Et tu sais ce qui va se passer? C'est que au contact de ces gens-là, et là, je suis aussi sérieuse que je peux, au contact de ces gens-là, cet esprit de prospérité va passer sur toi. Je peux vous le dire, ça se transfère. Mais il va falloir que tu cesses d'être nerveux quand tu rencontres des gens qui ont de l'argent. et que tu cesses d'être impressionné. Parce que cet esprit va venir sur toi. Ce qui veut dire, si tu es passé du pas assez, que tu es arrivé au juste assez, juste assez, et que tu veux aller dans le plus qu'assez, je vais juste te donner un conseil, hein. Prends des cours d'éducation et de savoir-vivre. Parce que le tout va avec. Honnêtement, moi, ça fait des années que je me suis préparée à ça. Préparée à manger dans des châteaux. Et j'étais pas du tout gênée. Non, mais vous rigolez? Mais je vais vous dire, en attendant, je suis prête. J'ai appris à me tenir à table. Pas parce qu'on me l'a appris, j'ai choisi d'apprendre. Et j'ai choisi, quand j'étais avec des gens qui vivaient dans le plus cassé, je les ai regardés manger. Je les ai regardés se tenir à table. J'ai regardé quel verre ils prenaient. J'ai regardé comment ils parlaient à la personne qui servait. J'ai regardé comment une dame marchait. Parce que c'est un tout. Tu sais, tu peux pas dire je veux plus d'argent et simplement croire que c'est. Tu sais, ça n'est pas la somme d'argent qui rend riche. Encore une fois, il y a des gens, ils ont des millions et ils vivent dans la pauvreté. La richesse, c'est une mentalité. Ça a à voir avec la beauté. Ça a à voir avec l'ordre. Je vais vous dire, tout ce que je peux voir, c'est que les gens qui prospèrent les trois quarts du temps, il y a des exceptions, les trois quarts du temps, ils aiment ce qui est propre et en ordre. Tu veux prospérer? Peut-être qu'il est temps que tu commences à faire ta chambre. Ça vous parle, ça, ou ça vous parle pas? Mais je vais vous dire, approchez le monde, vous savez, regardez le monde de la prospérité et vous apprendrez quelque chose. Le monde de la prospérité ne veut pas, certainement pas en Dieu, mais dans le monde même, ne veut pas dire non plus arrogance et mépriser tout le monde. Les gens qui sont nés dans la prospérité, ils respectent les autres. Et ils peuvent parler avec courtoisie et ils peuvent apprécier tout le monde. Et ils ne sont pas impressionnés par les titres. Il y a une vraie mentalité de prospérité. Une vraie, selon Dieu. Est-ce que Dieu est arrogant? Est-ce que Dieu rabaisse les gens? Est-ce que Dieu est impressionné par les titres? Est-ce que Dieu est impressionné par une Ferrari? Question. Est-ce que Dieu est prospère? Il y a la prospérité selon le monde. Et il y a la prospérité selon Dieu. Maintenant, je vais juste vous donner un petit peut-être contexte. Dites-moi, vous ne vous posez pas des questions? Pourquoi votre pasteur prêche là-dessus en ce moment? Un pasteur, ça a combien de messages à sa disposition? Mais vous réalisez? Surtout un pasteur, ça va dans tous les sens. On est obligé de connaître tout le conseil de Dieu. On ne peut pas rester sur un sujet. On est obligé d'étudier tout le conseil de Dieu. Et on est obligé de prier pour savoir quel morceau, quelle part du conseil de Dieu il veut. Parce que c'est lui, c'est Jésus qui bâtit l'Église. Et on bâtit l'Église à coup de parole. Pourquoi? Pourquoi en ce moment j'ai à cœur la prospérité? Parce que Dieu veut te faire passer à un autre niveau. Et si ce soir, tu écoutes la sagesse qui a été partagée avec toi, je te garantis, ta vie changera. Je te le promets, ta vie changera. Alors décide ce soir que tu vas arriver un jour à retirer cette phrase de ta conversation ou de tes pensées, je ne peux pas me le permettre. Tu peux écris-la sur un bout de papier. Écris cela. Je ne peux pas me le permettre. Écrivez cela. Allez-y, passez un bout de papier à quelqu'un là. Un stylo aussi, prêtez-le. Allez. Ça n'a pas besoin d'être un grand bout de papier, hein. Mais écrivez-le. Mettez des petits guillemets. Martin n'a pas de papier. Viens chercher. Viens, non, il ne partage pas le papier. Ah, d'accord, la feuille, oui. Ok, allez, TND. Tout le monde écrit. Je ne peux pas me le permettre. Vous avez écrit ? C'est mon stylo, ça, non ?
Oui, c'est
emprunté. Ah, oui. Emprunté, hein ? Ça y est, c'est fait. Vous avez écrit ? Je ne peux pas me le permettre. Et maintenant, vous mettez une grande croix sur cette phrase. Et vous marquez la date à côté. On est le 24. Vous marquez la date à côté. Et vous dites, c'est terminé. Je change de statut. Vous le répétez après moi. Je suis né de nouveau. J'ai la nature de Dieu en moi. Je suis fils de Dieu. Ambassadeur. Créé à l'image de mon Dieu. Et sur cette terre, je vais le représenter. Je vais vivre à son niveau. Seigneur, aide-moi à changer de statut. Fais-moi prospérer. Tout le monde répète. J'accepte de prospérer. Tout le monde répète. J'accepte de prospérer. Tu ne veux pas prospérer, toi, Baptiste ? Seigneur, amène vers moi des rendez-vous divins. Fais venir des promotions. Donne-moi des suggestions. Ouvre des portes. Merci, mon Dieu, parce que je ne resterai pas où je suis. J'ai trop à faire pour toi. Parce que je te représente dans ma génération. Amen. Alors, je vous souhaite de prospérer. Je vous le souhaite. Amen. Alors là...
Donc, c'est le dernier stage pour notre formation. Et il ne devait pas y avoir d'enfants. Donc, ça devait être n'importe quel lieu, chez un jardinier, chez un maçon. Moi, je voulais le faire en entreprise pour voir autre chose, pour voir tout ce qui se passe, les liens entre les employeurs et les employés, et voir, j'avais dans mon cœur, c'était, faut que tu vois quelque chose de plus grand. Ok, Seigneur. Mais la difficulté, c'est que j'avais pas la formation pour, puisque j'étais dans le social, et je n'avais pas de formation au niveau de quoi que ce soit en entreprise. Et c'était un petit peu un défi, et donc j'ai tapé à toutes les portes, j'ai donné des CV, et bon, c'était des réponses négatives ou pas de réponse du tout. Et on me disait, mais qu'est-ce que vous voulez faire ? Et moi, je voulais voir, en fait, un directeur gérer une entreprise, l'observer, voir les différentes tâches des responsables, et à la fois, travailler sur un poste, c'était un petit peu impossible. Ouais, un petit peu, j'expliquais ça aux gens, ils me regardaient avec des grands yeux. D'accord, et je fais, Seigneur, je veux faire ça. Je ne sais pas où ça va s'ouvrir, mais ça va se faire. Et ben, j'avais à cœur l'hôtel Novotel Sofitel. Donc, je vais avec mon CV devant et j'arrivais pas à rentrer dedans parce que moi, c'était trop grand. Voilà, quoi, je fais non, Seigneur, même pas pour rire, quoi. Donc, je rentre, bonjour. Je rentre d'abord dans l'hôtel, à l'hôtel Sofitel. Bonjour, ça serait pour un stage. Je marchais tout doucement sur la moquette, comme ça. J'ai trouvé beau, tout ça. Là, non, Seigneur, ils vont prendre mon CV, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'elle veut, celle-là ? Voilà. Voilà, et j'arrive, je fais, voilà, ce serait pour un stage en entreprise. Dans quel niveau ? Ben, vous lirez la lettre, voilà. Ben, au revoir, bonne journée. Et je vais à l'hôtel Novotel, ils me font, ben, d'accord, rappeler le directeur le soir. Voilà, telle heure, je suis d'accord, pas de souci. Ils me donnent le numéro, je rappelle. Ok, ben, on se rencontre demain matin. Donc, je rencontre le directeur de Novotel. Et bon, ben, je vais vous faire rencontrer l'économe. D'accord. Je sais pas ce que c'est un économe, mais bon, c'est pas grave. Alors il fait oui, ça m'intéresse, mais je pars en vacances. Donc je vais appeler l'économe de Sofitel. Je fais d'accord. J'y vais tout de suite. Je viens de la part de Intel. Et il me fait d'accord. Je fais, voilà, je voudrais observer la direction, les différents postes, et être dans un poste régulier quand même, faire quelque chose de régulier, avoir mon coin. D'accord, ok. Et en fait, ça a commencé le lendemain, il a accepté. Mes repas sont offerts, c'est-à-dire je mange bien. Voilà, très bon. J'ai appris à me tenir parce que bon, voilà, on n'arrive pas avec le jeans. Bonjour tout le monde, ça va et tout. Non, c'est voilà, j'ai appris à me tenir, à m'habiller correctement.
Ça va avec.
Hein. Ça va avec. Et j'ai rencontré le directeur cette semaine. Et j'étais impressionnée quand même parce que voilà. Je ne savais pas comment commencer mes questions. Parce que quand on n'est pas dans le domaine, c'est ça qui est difficile. Parce que moi, normalement, c'est les enfants, les éducateurs. Et là, c'est faire du chiffre, tout ça. Et donc, je me suis adressée à lui. J'ai dit, Seigneur, aide-moi à parler comme la plume d'un habile écrivain. Que je ne parle pas, que je ne dise pas qu'il n'y ait pas de temps de pause, tout ça. Et il m'a aidée, ça coulait. Je ne me reconnaissais pas, quoi. Et je parlais, j'étais posée. Au départ, j'étais un petit peu impressionnée, mais après, c'est passé. Et il m'a raconté son parcours, volontiers. Puis il m'a fait, on reparlera de ça, puisqu'il n'avait pas le temps, il avait un coup de fil. Et Dieu m'a montré, tu vois, c'est bon, tu dois le respecter, tu dois l'honorer, parce que c'est une autorité, mais c'est quelqu'un comme toi. C'est quelqu'un comme toi, quoi. Voilà, il s'habille bien, et puis j'apprends, et c'est quelqu'un qui aime l'excellence. Il m'a répété ce mot 4 fois. J'ai pas entendu le message, mais je l'ai entendu à travers lui. Et il m'a dit, moi, ce que je veux, c'est l'excellence. Je veux que l'accueil soit vraiment, que tout soit bien fait, tout soit propre. Parce qu'il fait partie des ouvriers, des meilleurs ouvriers de France. Donc, il y a chaque métier le meilleur charcutier de France. Et je fais, c'est ça, Seigneur, moi aussi, je veux être la meilleure éducatrice, mais pour toi. Et voilà, et Dieu a pourvu, et je sais qu'il y a encore des... Et du coup, je voulais aller voir tous les services, et je suis allée voir le cuisinier, l'accueil, la réception, la comptable, le service commercial, voilà, et je suis allée. C'est pas facile, hein, parce que je ne connais pas les questions qu'il faut poser, vraiment, et il m'a aidée. J'ai un autre témoignage qui rentre dedans. Ça fait 5 mois que je travaille à McDonald's, et je voulais arrêter depuis longtemps parce que je sais qu'il fallait que je passe à autre chose.
Il était temps parce qu'elle était en train de s'installer. Le diable était en train de la garder dans cette... Alors vous parlez de limité ou à McDo?
Ouais. Et je cherchais, j'allais, je savais que j'allais préparer ma lettre de démission, nanana, mais ça a duré, quoi, ça a perduré. Et j'avais peur, quoi, de partir parce qu'il n'y avait rien, quoi. J'avais besoin d'un petit job. Et puis j'ai fait ma lettre, et au moment où j'ai fait ma lettre, que je m'apprêtais à démissionner, on m'a proposé de faire des extras dans cet hôtel où je suis en ce moment. Et c'est mieux payé, et ça m'arrange parce que c'est le week-end, donc la semaine je pourrais réviser, et c'est mieux parce que ça me convient plus.
Gloire à Dieu.
Et gloire à Dieu.
Eh ben, changer de statut. Amen.
Nous espérons que ce message vous a plu, et qu'il a été pour vous une véritable source de bénédiction. Ce message a été diffusé par le ministère enseigne-moi.com. Nous vous invitons à visiter notre site internet www.enseigne-moi.com sur lequel vous pourrez écouter et commander des centaines de prédications. Que le Seigneur Jésus vous bénisse.